Réplique, Détrompez-moi, conversation sur la bande dessinée avec Blutch et Hector Obalk. Parmi les raisons qui me valent d'être traité de passéiste, de réactionnaire ou de vieil académicien rance, il y a le fait que j'ai parlé de la bande dessinée comme d'un art mineur. Dans ma bouche pourtant, ce n'est pas une insulte. Je dis la même chose de la chanson, alors que j'aime beaucoup Léo Ferré, Georges Brassens, ou dans un autre genre, Pink Martini, le mélancolique Leonard Cohen et le mélodieux Paul McCartney. Reste qu'on pouvait justement me reprocher de parler sans savoir et de ne pas me confronter aux meilleurs représentants du 9e art. J'ai voulu remédier à cette coupable désinvolture en invitant aujourd'hui le dessinateur Blutch, auteur de nombreux albums comme La Beauté, Le Petit Christian, Vue sur le Lac ou Pour en finir avec le cinéma, et le critique d'art Hector Obalk, qui publie Michel-Ange, une bande dessinée d'un nouveau type. Commençons par vous, Blutch. J'ai appris, dans un entretien publié par la Nouvelle Revue Française, que vous avez été étudiant aux arts décoratifs de Strasbourg. Qu'est-ce qui vous avait choisi la BD plutôt que la peinture, le décor de théâtre ou une autre forme d'expression artistique?
Le choix s'est présenté vraiment d'une manière directe, parce que c'était il y a une trentaine d'années, j'étais étudiant. Après deux années de probatoire, ou je veux dire de purgatoire, on avait la possibilité d'intégrer un atelier. Et deux professeurs me réclamaient. C'était le professeur de peinture et le professeur d'illustration. Et je me suis retrouvé devant un choix, et devant le choix de ma vie, si vous voulez. Et donc j'ai choisi l'illustration, c'est-à-dire la bande dessinée. Pourquoi? Je me suis posé la question de nombreuses fois, parce que j'ai été tenté et par le verbe et par le visuel, si vous voulez. C'est-à-dire et par le verbe et par l'image. Qu'est-ce qui, à mon sens, mariait le mieux, le plus harmonieusement le verbe et le visuel? C'était la bande dessinée. Et puis, ce qui me plaisait aussi dans la bande dessinée, c'est ce côté impur, si vous voulez. C'est-à-dire cet art, on va dire, industriel, avec une diffusion, si vous voulez. Ce travail qui est diffusé de manière multiple, ça me séduisait. Plus que la pièce, l'œuvre d'art unique, c'était la diffusion qui m'intéressait. Le verbe, le visuel, et puis d'une manière plus prosaïque, je me disais que j'allais moins crever la dalle, si vous voulez.
Ah bah oui.
Ouais.
Mais est-ce que ça tient donc pas aussi
au
fait
ça aussi,
que l'art contemporain a voulu répudier, périmer la peinture avec ses installations notamment, et que donc le choix d'être peintre aujourd'hui est un choix extrêmement difficile, qui comporte un risque.
Surtout à votre époque.
Je vous parle d'un temps, il y a une trentaine d'années.
C'était une trentaine d'années.
Aux Arts Déco, il y avait une figure tutélaire, c'était Joseph Beuys. C'est-à-dire que toute pratique, tout processus de création qui nécessitait, on va dire, un savoir-faire, était suspect. C'est-à-dire que la figure de l'artiste dépassait celle de sa production. On nous apprenait à être des artistes, l'artiste total, qui n'existe que par le fait qu'il affirme son statut d'artiste, si vous voulez. Moi, je me sentais plus... La bande dessinée était assez méprisée, hein, quand même, dans le milieu dans lequel... Dans ce milieu-là. Et il y avait un côté, on va dire, territoire vierge. Je me disais, tiens, dans la bande dessinée, il y a tout à faire. Peut-être aussi. Il y a moins de pression, il y a moins de...
Il y a moins de pression, mais vous reconnaissez vous-même aussi...
moins de vanité aussi.
Que c'est un art plus industriel, donc il y a aussi la pression du journal dans lequel vous travaillez.
Ouais,
vous n'êtes pas
sûr
un artiste totalement libre non plus dans la BD, Blutch.
Non, je suis devenu auteur parce que d'abord, comme beaucoup de gens, j'ai été lecteur. Je suis peut-être un arme qui a poussé de travers. Après, je me sens tout à fait... Vraiment, je suis dans une lignée, dans une tradition qui remonte au moment... En fait, le dessin, la caricature, l'illustration vient de l'imprimé, si vous voulez. Donc l'imprimé, c'est quoi? C'est ce qu'on appelait les feuilles sous le Second Empire, enfin les journaux. Donc, moi, je me sens tout à fait, je me suis senti toujours un cousinage, une affinité avec des dessinateurs. Là, je vais citer quelques noms qui vont sembler très anciens, mais qui pour moi sont très présents, si vous voulez, que ce soit Granville, Cham, Doré, Steinlen, Wilhelm Busch, Töpfer. C'est-à-dire vraiment des dessinateurs qui n'étaient pas évidemment des dessinateurs de bande dessinée ou alors qui approchaient vaguement cette forme d'expression. Mais j'ai l'impression de poursuivre une espèce de démarche qui remonte, j'allais dire, au début de la révolution industrielle même. Vous voyez.
Oui, un dernier mot avant de passer la parole à Hector Balk. J'ai vu l'affiche que vous avez faite pour Les Herbes Folles,
oui,
film d'Alain René,
oui.
Une affiche absolument magnifique,
oui.
Qui révèle quand même une certaine capacité picturale, et André Dusselier, que je voyais l'autre jour et à qui je disais que j'avais ce projet d'émission, m'a dit que René avait chez lui un portrait de lui que vous avez réalisé, qu'il aimait beaucoup, et que Dusselier lui-même aimait beaucoup. Donc vous ne regrettez jamais de ne pas avoir fait le choix de la peinture ?
Je vous dis une chose, je suis dessinateur, vraiment, définitivement. Et pour moi, je ne sais pas si c'est un art mineur, si vous voulez, mais pour moi, c'est un enjeu majeur.
Parfait. Donc, maintenant, Obalk. Obalk, on vous connaît pour vos films Grand Art sur Arte, des livres que vous avez écrits, notamment Aimer voir, un très beau livre, sur vos peintres préférés, pour dire les choses de manière un peu enfantine. Et là, j'ai sous les yeux un objet étrange, étrange et beau, tout Michel-Ange ou presque, en un seul texte et en mille images. Et en effet, on y reviendra notamment la Pietà de Michel-Ange, et l'essentiel du livre est consacré à la voûte de la chapelle Sixtine, mais c'est une sorte de BD. Alors, quelle sorte de BD et pourquoi avoir choisi ce genre, Hector Balk?
Alors, pour que l'auditeur soit quand même juste un tout petit peu au courant, ce n'est pas une BD sur Michel-Ange, c'est une BD, on va dire, de Michel-Ange.
Voilà, absolument.
Parce qu'il
vous avez raison, il y a des BD sur. Moi, j'ai lu récemment une BD de Manara, un auteur de bande dessinée très aimé de Fellini, qui raconte la vie du Caravage. Et là, c'est tout à fait autre chose.
Voilà.
C'est Michel-Ange, l'auteur, en quelque sorte, le co-auteur.
Il s'agissait donc de savoir si le format BD pouvait convenir à une mise en page qui mette en valeur les détails des fresques, des peintures, des dessins et même des sculptures de Michel-Ange. Donc que les gens se trompent pas, je n'ai pas fait une BD dans laquelle Michel-Ange se promène dans la rue avec son bonnet sur la tête ou je ne sais quoi et en disant je ne sais quoi qui lui sort de la bouche. La raison pour laquelle je suis venu à la BD est à peu près complémentaire de celle de notre ami Blutch. Lui il dit je suis dessinateur avant tout, moi je dirais je suis critique d'art avant tout. Et je n'ai cessé d'être critique d'art. Critique d'art, qu'on se comprenne, parce que sinon on ne pourra pas me suivre, c'est pas seulement celui qui parle d'art, dans mon vocabulaire à moi, ou dans ma vocation à moi, c'est celui qui... Parce que vous voyez, les théoriciens, les esthéticiens, les philosophes, les poètes parlent d'art, et tout à fait légitimement, je ne parle même pas des historiens. Critique d'art, c'est celui qui pointe l'endroit précis des œuvres qu'il s'agit d'apprécier pour comprendre la singularité de l'artiste. Être critique d'art, c'est celui qui d'abord montre du doigt. Et qui montre du doigt les tableaux, certains contre d'autres, mais aussi certains détails contre d'autres. Et j'ai pas trouvé, bien. Au départ, donc, je faisais des textes, comme tout le monde. J'ai découvert à 40 ans la caméra, et j'ai pensé que la caméra, c'était mieux pour montrer. Mais tenez-vous bien, le texte est toujours là, ça s'appelait la voix off. Et j'ai donc fait, grâce à Arte, une vingtaine de films de la série qu'on appelle Grand Art, et dans laquelle j'ai tenté de renouer avec la tradition de l'historien d'art généraliste, celui qui, comme Henri Faucillon au XIXe siècle, ça n'existe plus au XXe siècle, parce qu'il n'y a que des historiens d'art spécialistes. Moi non, je voulais être l'œil qui tourne en zigzag sur la totalité du patrimoine culturel, et en tous les cas, c'était mon ambition, et ça l'est encore. Et si Arte me permet de faire les 30 films que je dois encore faire après avoir fait les 20, ça serait une catastrophe, ce ne serait pas le cas, disons. Et puis, j'ai continué à je suis arrivé à la bande dessinée qui n'est autre, finalement, qu'un film couché sur papier. Donc, a priori, la bande dessinée, je voudrais le dire pour l'histoire même de la bande dessinée, la bande dessinée n'est en réalité née qu'après le cinéma. C'est au départ un succès d'année du cinéma. C'est quelque part le cinéma facile, si vous voulez, dans lequel on a imité les chants, les contre-chants, etc., etc. Je sais qu'il y a des exceptions à ce que je dis, mais ces exceptions confirment quand même la règle que l'industrie de la bande dessinée est née après l'industrie du cinéma. Et moi, c'est pas autre chose. Je n'ai fait qu'en bande dessinée des essais qui sont la mise sur papier des choses que je faisais en film. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte, parce qu'au départ, c'était pas du tout le but de faire mon dossier, il s'agissait simplement d'améliorer le livre d'art. Qu'est-ce que c'est qu'un livre d'art? C'est un livre dans lequel vous avez un texte qui est illustré par des images. Et là, on est toujours dans un dilemme quand on illustre un texte, c'est qu'on dit combien on va mettre d'illustrations. Ça, c'est toujours un problème. Et on se bat avec l'éditeur, et puis on se rend compte aussi que votre texte, il n'y a pas la même densité partout. Vous faites un paragraphe dans lequel vous parlez de 10 images, puis vous faites 3 pages dans lesquelles vous avez une notion plus abstraite. Et moi, j'ai trouvé, avec cette idée, parce que moi, finalement, ma définition de la bande dessinée, elle est très simple. C'est celle d'ailleurs qui correspond à une bande dessinée moderne qu'on ne devrait plus appeler bande dessinée mais BD et qui en gros est un parcours fléché d'images jointives. C'est-à-dire que il y a plein d'images sur la page et il y a un ordre dans lequel on les regarde. Et qu'est-ce que c'est cet ordre dans lequel on regarde? Ben, c'est celle de mon propre texte. Parce que dans mon cas, moi, il s'agit de suivre une phrase qui court sur une page, deux pages, trois pages, bref, peut-être 30 ou 40 cases. Et cette page, relativement longue, qui est en général de mon cru, dans la mesure où les pages longues sont c'est un peu mon style de faire des phrases longues, font que chaque segment est illustré en vision périphérique, comme dans une douceur de lecture, si vous voulez, par les détails que je peux mettre dans ma mise en page.
Alors justement, dans ce livre, il y a quelques pages consacrées à la Pietà de Michel-Ange à Rome. Et là, on voit en effet toute la séduction de votre parti pris. Parce que on voit la Pietà sous différents angles. On voit les détails. On voit l'ensemble, puis les détails que vous commentez très bien par ces petites phrases, par ces bulles. Et alors, il y a notamment, vous nous faites apparaître un détail que peut-être un spectateur, un touriste pressé n'aurait pas vu. Vous aurez remarqué, dites-vous, que la Vierge est aussi jeune que son fils. Vous faites remarquer aussi qu'à un moment donné, on a le sentiment aussi que le corps du Christ est en train de glisser, il est sur le point de glisser des genoux de sa mère. Mais c'est très intéressant parce que, en travaillant cette émission, j'ai relu le chapitre de la vie des peintres de Vasari. Et il parle de ça aussi. Il dit que de cette Pietà merveilleuse, Michel-Ange retira une grande renommée. Et si quelques imbéciles disent encore qu'il a fait la Vierge trop jeune de figure, ils ne savent pas ou ne s'aperçoivent pas que les personnes vierges conservent longtemps la fraîcheur de leur visage et que le contraire arrive à ceux qui ont eu de grandes douleurs, comme c'est arrivé au Christ. Parce qu'il est vrai que la mère et le fils ont l'air à peu près d'avoir le même âge. Mais ce détail, vous le faites sentir, vous le faites très bien apparaître et vous le commentez discrètement. Et la beauté stupéfiante de cette œuvre n'en apparaît que davantage.
Alors, Victor Robert. Plusieurs remarques à ce que vous dites. D'abord, je vous remercie d'avoir prêté attention à ça. J'aurais juste dire d'abord, c'est que quand vous êtes dans un livre normal, vous aurez peut-être une photo de la première étape, peut-être deux. Oui, moi j'en mets 30. Ça change tout au problème. Et du coup, ça me permet aussi d'articuler mon discours sur l'ensemble des choses sur lesquelles parle. Sauf que la difficulté quand on est dans ce genre de choses, c'est qu'il faut savoir articuler des choses qui sont dans le détail le plus précis et donner un sens général à l'œuvre qui, en général, qui relève d'une phrase plus abstraite. Et c'est comment passer de l'abstrait au concret qui fait toute la chose de la critique d'art. Alors, je voudrais, à ce moment-là, m'opposer, si vous voulez, parce que les gens me font parfois le compliment de dire « tu es un très bon vulgarisateur ». Je prends le compliment très bien, mais je me permets de dire que c'est pas tout à fait exactement ça la vérité. Le vulgarisateur, il simplifie la réalité. Moi, je prétends que je m'adresse également à des gens qui sont spécialistes de l'art et qui n'auraient pas la possibilité de voir aussi bien les détails que ceux que je leur montre. C'est-à-dire que je m'adresse véritablement, non pas aux gens qui seraient très spécialistes, si vous voulez, du XVIe siècle, que des gens qui n'y connaîtraient rien, dans la mesure où je suis proche de la, j'essaye d'être le plus proche possible au millimètre, enfin au centimètre près de la réalité visuelle de ce que l'œuvre d'art donne à voir et qu'on ne voit pas toujours dans tous ces détails. La chose un tout petit peu subtile dont j'étais un peu fier, bref, dans le cas de la Pietà, c'est que si vous regardez bien cette Pietà, on voit son pied gauche et on voit pas son pied droit. Par contre, on voit un monticule sur lequel on devine qu'un pied droit est assis. Donc, fatalement, on en déduit que les deux jambes ne sont pas au même niveau. Cela s'ajoute au fait que le Christ est davantage tenu par les aisselles que par les jambes, et que donc se passe ce petit miracle de ce bloc de marbre, c'est quand même extraordinaire, enfin un bloc de marbre, un seul, qui montre donc deux personnages, et qui tout d'un coup peut faire sentir le début d'une petite glissade éventuelle du Christ qui pourrait tomber des genoux de sa mère. Voilà. Et la critique d'art, ce n'est rien d'autre que de pointer ce détail à la fois intelligent et émouvant des œuvres d'art.
Alors, Michel-Ange, et vous l'avez montré très bien, c'est une beauté quasi miraculeuse. Et là, je cite encore Vasari à propos de la Pietà. On y voit une telle douceur de visage et une si grande harmonie dans la disposition et la conjonction des bras, des jambes et du corps, enfin une si exacte vérité que l'esprit est plein de stupeur et qu'on s'étonne qu'une main d'artiste ait pu produire une œuvre aussi admirable en peu de temps, de même que c'est vraiment miraculeux qu'un bloc informe au début ait donné naissance à une forme si parfaite que la nature ne peut produire que difficilement dans un corps vivant. Et là, je me tourne vers vous, Blutch. Quel est le rapport que vous entretenez avec le choix qui a été le vôtre de la bande dessinée avec la beauté? Et je suis d'autant plus enclin à vous poser cette question qu'un de vos albums s'intitule La beauté. Mais la beauté, c'est quoi pour vous, auteur de bande dessinée?
Ce titre-là, La beauté, est venu presque comme un pied de nez, si vous voulez. Ce livre faisait partie d'une trilogie sur le bonheur, la volupté et la beauté. C'est très très difficile de parler de la notion de beauté, en tout cas au moment où nous parlons, à l'époque que nous vivons, est une notion vraiment pour le moins ambiguë.
Pourquoi ?
Parce que je pense que la nature même de l'art est incertain et du moins ambiguë. Et ce depuis, parce que je veux dire que les processus de création depuis 200 ans, depuis ce que j'ai appelé tout à l'heure la révolution industrielle, ont dû s'adapter constamment, en tout cas se détacher des formes, on va dire, préétablies, et épouser cette espèce de convulsion dans laquelle nous sommes entraînés depuis 200 ans, si vous voulez. Il y a une espèce de... Voilà. Tout ce que nous vivons... Hector parlait tout à l'heure du cinéma, de la bande dessinée, etc. Mais tout ça, pour moi, fait partie d'une espèce de convulsion assez récente, en fait. Parce que 200 ans, c'est pas grand-chose. Donc, on vit un espèce de moment on est dans une lessiveuse.
La question d'Alain, c'est de savoir...
Oui, je sais, mais je vais pas...
À la poursuite de la beauté.
Non, mais je vais y venir. Je vais y venir, parce que pour moi, c'est un mystère. Je veux dire, Matisse, pour lui, Je me souviens dans ses écrits, pour lui, le summum, pour lui, ce qu'il devait atteindre, pour l'idéal, voilà, je cherchais ce mot-là, pour lui, l'idéal, c'était Giotto. Il disait, jamais dans la vie moderne, dans ce qui m'est proposé, je pourrais atteindre cet idéal, si vous voulez. C'est impossible. Mais les étapes pour y arriver sont intéressantes. C'était dans une lettre à Bonnard, en fait. Et pour moi, la beauté est quelque chose qui je suis incapable de vous dire... Je suis incapable de la cerner. Ouais. D'ailleurs, il y a là... J'ai une espèce de... J'ai une petite prévention par rapport au livre d'Hector Obalk. C'est parce que, pour moi, Michel-Ange, il me parle, si vous voulez. Il s'adresse à moi, si vous voulez. C'est-à-dire, son image, ou l'image qu'il produit, elle s'adresse à moi directement. Et là, j'ai une image d'une image, si vous voulez. Déjà, le choix que vous avez choisi de faire des photos, par exemple, en couleur. Pourquoi une photo en couleur? Pourquoi vous n'avez pas pensé faire une photo en noir et blanc de la Pietà, par exemple? Peut-être qu'on aurait pu détacher d'une manière plus... Vous voyez ce que je veux dire? D'une manière un peu plus... Les ombres, les volumes. Je me suis dit ça l'autre jour, parce que je me suis dit, ah bah tiens, pourquoi il n'a pas fait du noir et blanc?
Alors, il y a deux choses.
Si vous faites une image sur une image, eh ben, autant y aller à fond. Et pourquoi ne pas avoir choisi le noir et blanc?
Alors, Hector Obalk, et je ne vous laisse pas encore tranquille avec la beauté ni l'un ni l'autre. Mais Hector Obalk, répondez.
Alors, bon, alors pour savoir si les sculptures, j'aurais pu les mettre en noir et blanc, oui. Et les peintures, ça m'embête un peu quand même, puisqu'elles sont en couleur. Alors, la question de savoir si c'est une image, a l'air de dire que, si vous voulez, vous auriez d'un côté l'œuvre en vrai, de l'autre côté, vous auriez l'œuvre telle que je la reproduis dans mon album. Et donc, cela supposerait, si vous voulez, que l'œuvre en vrai serait plus visible. Et ce qui est totalement pas du tout le cas. Vu que quand vous êtes à la Sixtine, vous voyez que ce que vous voyez, c'est à 18 mètres de haut. Mmh. Et c'est quand même mieux d'en saisir l'échelle dans ce qu'on appelle en vrai, et d'en saisir les détails dans les reproductions, dans les cartes postales ou dans le livre que je tente de faire. La vérité d'une œuvre se trouve en vérité entre les deux. Et encore, dans le cas de la chapelle Sixtine, elle est relativement bien éclairée. Mais si vous êtes dans un musée où il y a des tableaux, vous avez quand même la vitre, vous avez le issue de secours avec le personnage vert qui se reflète dans la vitre. Et donc, pour savoir à quoi ressemble vraiment cette œuvre, il faut encore une fois faire dans votre tête la synthèse entre les reproductions bien faites et l'original dont les conditions de visibilité sont mauvaises. Et
Moi, j'ai de vieux bouquins de peinture que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup d'affection, parce que les reproductions sont en noir et blanc. Et je trouve qu'il y a un mystère qui se dégage d'une reproduction de tableau en noir et blanc.
C'est quand même sûr qu'à l'époque, c'est-à-dire que la peinture, les reproductions même dans les années 70, c'était quand même dégueulasse. On a fait des progrès énormes en reproduction.
Ça on le voit.
Et moi, personnellement, j'ai mis 4 mois à faire de l'étalonnage, parce que je vous assure, si vous comparez mon livre avec tous les livres sur Michel-Ange qu'il peut y avoir et qu'on vend au Vatican, ils sont tous avec des couleurs saturées qui sont ignobles. Je veux dire, franchement, moi, j'essaye de faire en sorte qu'on voit la fresque, qu'on voit la pierre, je vais insister là-dessus parce qu'il y a quand même tout un travail de couleur qui a été fait. Donc, vous me demandez.
Il est vrai.
Quand même
pas accepter le vote horrible. Les images sont très belles et que, personnellement, ce livre m'apprend à voir. Peut-être aussi parce que je ne sais pas voir, parce que j'ai un regard pressé, un regard distrait. Et que j'ai besoin de m'attarder sur les choses, et j'ai besoin qu'on m'aide à mieux regarder, à ouvrir les yeux. Mais je n'en ai pas fini avec la beauté, parce que vous avez parlé tout à l'heure, Blutch, justement, de la caricature.
Oui.
Et il est vrai que beaucoup d'auteurs de bande dessinée sont des caricaturistes. D'ailleurs, on emploie le mot pour les désigner quelquefois. C'était les caricaturistes de Charlie Hebdo, que j'aimais beaucoup, Volinsky, Cabu, Charbe, et je continue à dire je suis Charlie, mais j'ai un problème avec la caricature. C'est pour ça que même aujourd'hui, je n'achète que très sporadiquement Charlie. Et là, pour formuler mieux mon problème, je vais m'aider d'un auteur, et ça va peut-être pas arranger mes affaires, mais peu importe. Renaud Camus, dans un volume de son journal qui s'intitule Retour à Canossa, 1999. Il rend compte d'une exposition, d'une visite qu'il a faite à une exposition consacrée à Daumier. Daumier dont se réclament nombre d'auteurs de bandes dessinées. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas, et ils le font. Et il dit son admiration et son malaise. Et il se rend compte qu'il n'aime pas la caricature. Et il dit ceci. La caricature en les dit tout, toujours. Les visages, les corps, les sentiments, le langage. En toute chose et en toute personne, elle voit et elle énonce la bassesse, la trivialité, ce qu'il y a d'essentiellement commun. Perpétuellement, elle désidéalise le monde et sans doute en cela remplit-elle une fonction utile, mais dont je ne lui suis pas reconnaissant. Elle dit que nous avons tous les mêmes basses pulsions, que nous sommes tous semblables par nos défauts et que tous nous ne nous sommes jamais fait que d'excréments. L'amuseur est toujours sur la pente de la merde. Et ça m'a beaucoup frappé, d'autant d'ailleurs que, je ne dis pas que ça vous définit vous, mais à un moment donné, vous dites que vous avez choisi aussi le comique. Il s'agissait d'être comique. Et nous vivons aujourd'hui, je ne dirais pas sous la dictature des comiques, mais le comique est partout. Alors c'est aussi ça ma question de la beauté. Que reste-t-il de la beauté à l'âge de la caricature quasi universelle?
Ce sont les circonstances qui font l'homme aussi. Ce sont les circonstances qui font l'homme, parce que la première bande dessinée que j'ai publiée, c'était il y a 30 ans, en 87. Et il s'est trouvé qu'à cette époque-là, j'ai gagné un concours de bande dessinée organisé par Gottlieb dans son journal d'humour, donc Flux Glacial. Et je me suis retrouvé là, mais presque par accident, si vous voulez. J'avais des ambitions, enfin en tout cas, on va dire. Je me voyais dans une aventure plus romanesque avant. Je me voyais plus comme un genre de Tardy ou d'Hugo Pratt. Et je me suis retrouvé à Flux Glacial et je me suis mis à travailler parce que je me considère comme un humoriste, tout bêtement. Vraiment tout bêtement. Pas du tout comme un caricaturiste.
Ah non,
par inclinaison, jamais. J'ai d'excellents amis caricaturistes, j'étais très ami avec Charme. Je suis très ami avec René Pétillon ou Catherine Meurice qui travaillaient à Charlie. Et je leur ai toujours dit, mais jamais de la vie, vous me verrez faire une caricature d'homme politique. Je trouve que pour moi, c'est le comble du trivial. Je trouvais même ça obscène. Donc, d'être humoriste, c'est autre chose, si vous voulez. Je me situe sur un autre registre.
Mais...
pendant longtemps, oui, la parodie, des pochades même. Parce que je serais bien en peine de faire la promotion de mon travail, hein, si vous voulez. Donc, pour moi, c'est
une... Alors, il y a un volume...
Je peux la faire à votre place. Hein,
alors, allez-y.
Non, parce que quand on écoute notre ami Bletch, on pourrait penser que, comment dirais-je, ce n'est qu'un dessin d'humour. Non, c'est un scénario qui, parfois, est un peu métaphysique, qui est très surprenant.
Oui, vous toujours très surprenant, il faut dire.
Vous ne suivez pas les codes
traditionnels de la narration. Ça, c'est...
Parce que le travail artistique, pour moi, c'est une remise en question continuelle, si vous voulez. C'est-à-dire que tous les jours, rien n'est acquis, rien n'est posé, si vous voulez.
Non, mais la question profondément que posait Alain, c'était pourquoi la bande dessinée a un, comment on appelle ça quand on a un penchant comme un tournesol, ça s'appelle un tropisme, pardon, vers le caricatural, on va dire, sans penser au dessin de caricature politique. Y compris chez vous d'ailleurs, il y a quelque chose qui remonte d'ailleurs, pas seulement je pensais Max et Moritz là, Wilhelm Busch et tout ça, que vous avez cité tout à l'heure, donc mais en fait le caricatural avant la bande dessinée, cher Alain, ça s'appelait le grotesque. Il y a une tradition du grotesque qui existait évidemment au Moyen-Âge et puis au XVIe siècle, XIVe, etc., etc. Mais c'est vrai que pourquoi est-ce que... Et moi, j'ai pris le parti inverse, c'est pour ça que je me permets de m'opposer. Je me suis dit, non, la bande dessinée pourrait être le réceptacle d'images qui n'ont plus rien à voir avec la caricature. Car je ne m'intéresse pas à la bande dessinée pour l'univers que le plus souvent elle apporte sur un plateau. Je m'intéresse à la bande dessinée comme langage qui, en gros, si je devais le résumer, met en valeur l'anecdote. C'est ce qui est puissant et ce qui est dérisoire dans la bande dessinée, c'est qu'il y a des anecdotes partout. Une anecdote, c'est quand tout d'un coup, Tintin, par exemple, se cogne sur un réverbère. Mais le nombre de couics, de flucs et de Tintin qui se cognent au fur et à mesure des pages dans des réverbères ou dans des tiroirs de commode ou qui tombent des escaliers, etc., c'est tout le temps. Et c'est parce qu'il y a quelque chose, tout d'un coup, il faut que toutes les trois images, il y a quelque chose qui saute aux yeux, il faut qu'il y ait quelqu'un qui tombe, qui se casse. Je parle surtout dans ces bandes dessinées qui ont bercé notre jeunesse. Et moi, cette mise en valeur de l'anecdote que permet la bande dessinée, que ne permet pas l'image unique, mais qui fait qu'on est irrésistiblement attiré, quand on voit une bande dessinée, c'est-à-dire une planche, par regarder la première, de passer la première à la deuxième à la troisième, et de voir ce qui bouge. Moi, je me suis servi de cette mise en valeur de l'anecdote pour mettre en valeur des choses qu'on ne met jamais en valeur
quand on parle
d'un tableau.
C'est pour ça. La chapelle Sixtine, vous, Blutch, un rapport à l'anecdote très particulier. Vous racontez des histoires, pas seulement. Il y a des albums qui sont quasiment sans texte, notamment La Beauté, justement.
Où j'ai tenté de faire un essai en bande dessinée, qui est mon livre
sur
le cinéma.
Mais sinon,
vous
racontez l'enfance du petit Christian, dont on peut penser qu'il a un certain rapport avec vous.
Oui.
Mais alors, c'est très intéressant, parce que l'anecdote est là, mais aussi, en quelque sorte, le fantasme. Vous accueillez le fantasme, et sous la forme notamment des références cinématographiques. vos héros, et notamment le petit Christian, est empli d'images de cinéma, John Wayne, Burt Lancaster, et tout d'un coup, c'est avec ces images-là qu'il réagit à ce qui lui arrive, et Burt Lancaster, et même à la fin du deuxième volume, Marlon Brando, parce que, qui devient en quelque sorte son conseiller conjugal, sont là, et ça se déroule souvent à un double niveau, et d'ailleurs, le cinéma est très présent, et vous lui avez consacré même tout un album, pour en finir avec le cinéma. Mais c'est donc un rapport très, très singulier, très personnel avec l'anecdote. Blutch.
Écoutez, moi, à mon sens, la bande dessinée est un moyen. Enfin, pour moi, un moyen, c'est une expression poétique, j'allais dire. C'est-à-dire, pour moi, bizarrement, au-delà de l'anecdote ou de la. Je pense que cette pratique m'amène à approcher de plus près, bizarrement, ce qu'on appelle vulgairement la poésie, si vous voulez.
Non, mais
vraiment.
Dire autrement ce que vous.
Non, ce que je veux dire, c'est que bizarrement, oui, j'ai compris, mais ce que je veux dire, c'est que bizarrement et paradoxalement, je me dis, à travers la bande dessinée, qui est limitée et étrangement ambiguë, qui est une forme de littérature paradoxale même, je peux, enfin, en tout cas, je l'ai essayé dans certains livres, je me dis, tiens, je vais essayer d'atteindre l'inénarrable, mais tout en restant dessinateur. Je suis nullement plasticien, je suis dessinateur, mais à travers ce moyen-là, je me dis, tiens, je peux peut-être approcher, voilà.
Pour aller dans votre sens sur la poésie dont vous parlez et sur laquelle vous pouvez vivre avec une certaine liberté à la bande dessinée, c'est que si on considère l'auteur de bande dessinée comme un cinéaste, j'ai bien dit si on le considère, juste comme ça, 5 minutes, juste pour sur le papier, disons, on peut alors voir que, et ça c'est un avantage énorme, je vais le dire à Alain, de la bande dessinée, que tout d'un coup, c'est un cinéaste qui n'aurait besoin d'aucune production. Il est totalement libre de mettre, de faire intervenir ses écorces. Ça, c'est énorme, vous voyez.
Sauf qu'il n'y a aucun rapport.
Oui.
Il n'y a aucun rapport entre un cinéaste et un dessinateur de bande dessinée. Ah, vraiment, dans les préoccupations, etc.
Parce non,
que
vraiment, je vous le dis.
Parce que l'auteur de bande dessinée est libre.
Non, pas du tout. Je pense que la bande dessinée se rapproche plus du travail littéraire. C'est-à-dire, si vous voulez, si je lis...
Ça dépend des auteurs, moi.
Oui, là, je parle en mon nom. Hein, je suis pas représentant d'une corporation, si vous voulez. Je parle en mon nom. Je veux dire, si vous voulez, moi, j'ai trouvé plus de réponses pour mon travail en lisant L'art du roman de Kundera ou alors Parlons travail de Philippe Roth. Moi, c'est des bouquins qui m'ont beaucoup plus guidé que évidemment, Godard m'a beaucoup apporté ou René, etc. Mais je veux dire, pour mon travail propre, je trouvais plus de réponses. Je trouve plus de réponses dans l'écrit. En tout cas, malgré tout, la bande dessinée fait partie du champ de la littérature. Ce sont des livres qu'on trouve dans des librairies, qui font partie des palmarès des meilleures ventes dans les journaux de livres. Donc, pour moi, c'est une forme de littérature, si vous voulez.
Nous verrons, nous interrogeons sur les rapports de la bande dessinée et de la littérature. Mais là, je voudrais en venir, Hector Obalk, à ce qui fait le cœur de votre livre, à savoir l'exploration de la voûte de la chapelle Sixtine que Jules II avait commandé à Michel-Ange. Michel-Ange n'avait pas voulu au départ. Il dit « Je ne suis pas peintre, c'est une cabale de gens qui me veulent du mal, qui ont désiré cela. » Mais finalement, il a cédé. Il a mis 4 ans à la peindre, cette voûte. Il a peint allongé. Il était tellement habitué à cette posture, c'est comme ça après, pendant toute une période, qu'il lisait des lettres. C'est une voûte extraordinaire. Je dis exploration parce que vous êtes allé l'explorer. Et vous montrez cette exploration. Vous êtes monté sur un échafaudage. J'étais avec vous. Je vous ai vu monter sur cet échafaudage tremblant. J'ai tremblé pour vous. Mais alors, comment avez-vous fait dans ce qui est quand même... qui peut apparaître comme un désordre d'images théologiques pour vous orienter et pour orienter le lecteur.
Alors c'est le troisième aspect de la bande dessinée dont on n'a pas encore parlé, qui est le plus important, c'est que la bande dessinée permet une liberté de mise en page que ne permet pas le livre illustré. C'est vraiment la plus grande liberté, elle est là. Si on considère la bande dessinée comme je le voudrais, c'est-à-dire comme un parcours fléché d'images jointes, on se rend compte que tout d'un coup c'est un instrument extraordinaire pour si vous voulez faire une diagonaliser, si vous voulez parler en diagonale de la Sixtine en montrant une dizaine de visages, vous montrez une dizaine de visages. Si vous voulez montrer une vingtaine de nus, vous montrez une vingtaine de nus, ça ne vous prend qu'une seule page. Chose impossible dans un livre normal. Et ça vous permet aussi de faire des zooms arrière et des zooms avant qui vous permettent de mettre de l'ordre dans cette chose invraisemblablement assez complexe qu'est, que sont les 300 ou 500 mètres carrés de la voûte de la chapelle Sixtine. Et aussi, ça vous permet aussi de faire des comparaisons de qualité, puisque comme je tente de le faire remarquer dans cet ouvrage, ce qu'il a fait à la fin, dans les années 1511-1512, c'est-à-dire celle de la partie qui se rapproche de l'autel, est bien meilleure que ce qui est fait au début. Vous voyez, donc il y a des progrès, il a appris la fresque en 4 ans.
A appris la fresque en la faisant.
Oui. C'est incroyable, c'est extraordinaire. Et donc j'ai tenté, si vous voulez, dans cet ouvrage, d'y aller registre par registre, ensemble par ensemble, série par série. Et la Sainte Sixtine contient, comme chacun sait, la création d'Adam, qui est peut-être le tableau dont le détail est le plus célèbre du monde. C'est-à-dire, il y a des tableaux qui sont connus par leur détail, c'est-à-dire par la fameuse main, la main de Dieu qui communique, comme dans toutes les publicités, l'énergie
qui est reproduite
partout, etc. etc. Et on se rend compte, quand on pense que ce détail qui fait 60 cm, c'est le détail de quelque chose qui fait 5 mètres, qui lui-même est le détail, c'est 3% de quelque chose qui fait 300 mètres carrés, on se rend compte du gigantesque de la proposition michel-angelesque.
Alors justement, je voudrais dire un mot de ce détail, et vous interroger sur ce choix qui est le vôtre d'être un critique d'art et de chercher la beauté, et parfois au détriment de la signification historique, théologique, voire philosophique. Et là, je m'interroge, parce que vous montrez très bien ce moment où Dieu crée Adam, mais j'ai lu une conférence de Jacques Dariula au lycée Henri IV, et au terme de cette conférence, il a cet échange avec un auditeur qui lui demande que faut-il penser de l'interprétation d'Alain dans un de ses propos, qui voit dans la séparation entre les deux doigts, le doigt de Dieu et le doigt d'Adam, la naissance d'une liberté responsable. Et la réponse, on est en effet tenté d'interpréter cette scène comme une séparation plutôt que comme une création. Le créateur semble abandonner sa créature sur ce rocher en gras, il la condamne, dirions-nous aujourd'hui, à la liberté. Et alors à ce moment-là, moi j'ai repensé un livre de philosophie qui a beaucoup compté pour moi, « Totalité infinie » de Lévinas, où il dit, où on peut appeler athéisme cette séparation complète de l'être séparé qui se maintient tout seul dans l'existence. On vit en dehors de Dieu, chez soi, et il dit « c'est certainement une très grande gloire pour le Créateur d'avoir mis sur pied un être capable d'athéisme, un être qui, sans avoir été causa sui, est indépendant et est chez soi. » Donc, il y a là, et on sait que Michel-Ange avait fréquenté l'Académie platonicienne, qu'il avait connu Marcel Ficin, Pic de la Mirandole. Donc, il y a là un arrière-fond philosophique, notamment de cette scène de la création d'Adam. Pic imagine que le Créateur s'adresse à sa créature. « Je ne t'ai fait ni céleste, ni terrestre, ni mortel, ni mortel, afin que, souverain de toi-même, tu achèves ta propre forme librement, à la façon d'un peintre ou d'un sculpteur. Tu pourras dégénérer en formes inférieures, comme celle des bêtes, ou régénérer, atteindre des formes supérieures qui sont divines. » Est-ce que on n'est pas obligé d'avoir recours à toute cette méditation pour comprendre cette scène dont on vous dit très justement que c'est l'une des scènes les plus célèbres de toute la peinture occidentale?
Alors, Hector Balck. Alors, ce commentaire consistant, en gros, à mettre une culture humaniste, puisque les humanistes, en gros, pour dire les choses un peu simplement, ils ont fait en sorte, Pic de la Mirandole et tous les gens, Marcel Ficin, etc., qu'on revoie la nature comme une création de Dieu. C'est-à-dire que il y a une vision qui n'est plus exactement chrétienne quand on fait comme ça, mais qui permet, en fait, comment dirais-je, ce n'est plus orienté vers la présence ou pas divine du Christ. On voit Dieu un peu partout, pour dire les choses un peu simplement et de façon terre à terre. Donc le commentaire que vous me citez, je ne peux qu'applaudir des deux mains, mais il ne m'intéresse que dans la mesure où il se repère dans l'œuvre. Alors que l'on repère dans l'œuvre en question, le fait qu'en effet les deux doigts, si vous voulez, ne se touchent pas, je dis oui, c'est dans l'œuvre, et donc il y a une interprétation à tirer, je dis oui, je vais dans votre sens. Mais je voudrais faire remarquer que, et c'est là où peut-être vous êtes un petit peu injuste dans ma façon d'avoir montré, c'est que je ne fais pas que montrer cela. Il y a quand même des dizaines et des dizaines de livres qui ont été écrits sur Michel-Ange, je prétends avoir été le seul à avoir mis en valeur une autre interprétation, qui est celle qui fait remarquer que seulement les doigts, en effet, ne se touchent pas, mais que Dieu ne peut pas être à 10 centimes, à 1 mètre au-dessus du sol, au-dessus de la terre sur laquelle Adam est allongé. Parce qu'il serait juste ridicule, Dieu ne peut pas être à 1 mètre au-dessus du sol. Et donc ma solution à moi, ce que je prétends moi, c'est que Dieu est infiniment grand, et étant infiniment grand, il ne peut pas avoir la taille de Adam. Or, Dieu et Adam ont apparemment la même taille. Et donc, ce que je prétends, c'est que très intelligemment, et c'est pour ça que, comme vous remarquez, Dieu est presque sur une planète, Adam est presque assis sur une planète, eh bien, Dieu est infiniment grand, mais comme il est infiniment loin, il a l'air d'avoir la même taille. Exactement comme quand on joue, et comme les enfants jouent devant la lune, je sais pas quoi, ils font croire qu'ils soulèvent la lune ou ils mettent leurs doigts sur une pyramide par un effet de perspective. Donc là, je vais dans votre sens, sauf que je mets en valeur les inventions visuelles auxquelles
Mais alors justement,
parce que ça m'énerve. Ça m'embête toujours quand on me met du côté de la beauté formelle, comme s'il n'y avait pas d'intelligence dans la forme.
Mais bien sûr.
Je trouve ça amusant, mais il y a un miracle que moi, de toute façon, qui me surprend toujours, c'est ce qu'on appelle la postérité. Je trouve ça miraculeux qu'un homme ayant vécu il y a 5 siècles parvienne jusqu'à nous. Je trouve ça miraculeux que, par exemple, que François Villon, qui a dû vivre une trentaine d'années au 15e siècle, soit parvenu jusqu'à nous, si vous voulez. Je veux dire, Michel-Ange est là parmi nous, et les gens qui vivront après nous auront un autre regard, si vous voulez. Je veux dire, le regard. Là, j'ai pensé à Lévinas tout à l'heure. Je veux dire. On lira toujours Michel-Ange avec notre regard de personne vivante au moment où nous vivons. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que les suivants auront un autre regard. Je trouve ça drôle. Non, mais votre point de vue, je le trouve vraiment amusant. Mais je veux dire, peut-être que dans 100 ans, on dira autre chose.
Si non, mais attendez, parce que le regard qui est le nôtre, c'est aussi un regard informé. D'ailleurs, la recherche de l'invention visuelle, elle demande une grande culture picturale. De même, la réflexion théologique est très informée. On sait où a vécu, comment a grandi Michel-Ange. Et de même, je crois que dans plusieurs siècles encore, on verra aussi, si j'ose dire, ce qu'on ne voit pas. Et là encore, je cite Dariula, c'est-à-dire... En ce haut lieu de la chrétienté catholique, la figure littérale du crucifié n'apparaît pas. Et cette réalité infamante de la croix, qui paraît de façon saisissante sur la crucifixion à peu près contemporaine que Grunewald, disciple de Luther, a réalisé aux alentours de 1515, n'est pas là chez Michel-Ange. Mmh. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais dont l'absence... mérite réflexion pour comprendre ce que nous voyons, Hector Obalk.
Alors oui, c'est en effet, les 300, je sais pas comment on peut dire, les 113 registres du plafond de la chapelle Sixtine ne montrent pas une seule fois le Christ. Il faut attendre 20 ans pour voir le Christ, si j'ose dire, puisque plus tard, c'est-à-dire 20 ans plus tard, il va faire la paroi qui est celle de l'autel, qui est donc pas le plafond, mais la paroi, avec le jugement dernier. Donc le Christ n'apparaît nulle part. Quel est le propos de Michel-Ange, ou plutôt le propos du programme que, à mon avis, on lui a imposé, c'était celle de reparler de cette époque qui précède la chrétienté, avec des prophètes juifs, avec des sibylles grecques qui sont là pour annoncer, si vous voulez, la venue du Christ dans une sorte de non-dit pictural. De même, vous verrez plein de détails, dont je ne sais pas si vous avez saisi ce petit point-là, où il y a un moment, il y a un crucifié. Vous voyez. Ce crucifié, en vérité, c'est, je crois qu'il s'appelle Aman, qui fait partie d'un récit biblique, et Aman n'a jamais été crucifié, il a été empoisonné, mais Michel-Ange a préféré le crucifié pour, encore une fois, donner comme un signe avant-coureur de la venue du Christ. Donc il s'agit, toute la Sixtine, si vous voulez, est émaillée de signes avant-coureurs, y compris voilà. Cette jeune femme prépubère qui entoure Dieu et qui est à côté d'un petit enfant et dont on peut penser que c'est une figure future de la Vierge et de son enfant. Bon, il faut bien se dire que, de toute façon, le programme de la Sixtine, on l'a pas. On l'a jamais trouvé, donc les gens ne peuvent, et c'est parce qu'on l'a pas trouvé qu'il y a énormément de spéculations, d'hypothèses que je trouve toujours plus délirantes les unes que les autres, alors que ce que je viens de dire, c'est juste ce qu'il est raisonnable de penser de la Sixtine, et le reste, ce ne sont que.
Et vous annoncez un deuxième volume.
Oui.
Sur justement cette fresque absolument extraordinaire du Jugement dernier, qui a été fini en 1541, c'est-à-dire beaucoup plus tard, oui. Après le sac de Rome, notamment. Donc, c'est dans un monde qui a perdu ses repères, qui est emporté dans la violence et dans le tourbillon de l'histoire. Et, dit toujours Jacques Derrida, le Jugement dernier entre comme un ouragan dans la chapelle Sixtine. Et j'ai hâte, d'ailleurs, de ce point de vue-là, de lire votre deuxième volume.
Oui, si je dois juste, pour que les choses soient claires pour la chronologie de Michel-Ange, c'est en 36, 39, peut-être 41, à mon avis, je ne sais plus.
D'accord.
Donc moi, ça doit être 25 ans plus tard, donc vous avez tout à fait raison, qui fait cette grande fresque qui est quand même bien plus caricaturale. Hein, le Jugement dernier, que le dessin des ignoudis, des sibylles et des magnifiques prophètes qu'il y a dans la version. Mais en gros, Michel-Ange, son œuvre est simple à comprendre. Entre 1508 et 1712, il fait la Sixtine. Avant, il fait des sculptures, et après, il inachève des sculptures, et il y a surtout, finalement, il nous reste de lui, surtout une production de dessins. Michel-Ange, pourquoi il les inachève? Pourquoi il ne termine presque jamais ses sculptures? Ça sera le propos de ce deuxième volume. J'ai mes petites idées là-dessus.
Alors, je reviens vers vous, Blutch.
Il rigole, Blutch.
La littérature, vous importe. Vous êtes influencé par Long Travail de Philippe Roth, par L'Art du Roman de Kundera. Je suis très sensible à ces références. Mais je voudrais vous interroger sur une des tendances peut-être impérialistes de la bande dessinée actuelle. Le Monde annonce la création des grands classiques de la littérature en bande dessinée, en collaboration avec les éditions Glénat. Le tour du patrimoine en bande dessinée, nous dit-on. Les premiers volumes, c'est L'île au trésor, Notre-Dame de Paris, ou Voyage au centre de la Terre, Le livre de la jungle.
Au secours.
Que pensez-vous d'une telle entreprise?
Je trouve cette entreprise inepte. Pour moi, la bande dessinée est irréductible et incorruptible. C'est une forme d'expression qui est à trouver encore, si vous voulez, à explorer. Il y a quelque chose à faire, si vous voulez, en bande dessinée, qui n'a peut-être pas été fait encore. Mais alors, se mettre dans les pas ou du cinéma ou de la littérature, je pense que c'est vraiment se fourvoyer, si pour être vulgaire,
moi,
si vous voulez.
Je le regrette aussi, voilà. Peut-être pour une autre...
Parce que la bande dessinée n'arrivera jamais... Vous n'allez pas adapter, vous ne retrouverez jamais le millefeuille d'émotions, de complexité de la littérature dans une bande dessinée. C'est autre chose, ça joue sur un autre registre, si vous voulez. Vous n'allez pas adapter La Guerre et la Paix, par exemple, ce n'est pas possible. Il y a autre chose dans la bande dessinée. Vous parliez tout à l'heure, tout au début, vous parliez de ce qu'on peut appeler vulgairement la chansonnette.
Oui.
Moi, je suis très, très influencé par Léo Ferré, par exemple.
Ah ben
je
oui.
me dis, tiens... Si je pouvais approcher cette musique, cette poésie de la chansonnette en BD, pourquoi pas? C'est vraiment, c'est une chose, mais alors, essayez, je vais pas refaire le théâtre de Sabat, si vous voulez, ce serait grotesque.
Non, est-ce que, en plus, je trouve que, moi, il y a des romans que je n'aimerais pas voir en bande dessinée.
Non.
Je me souviens de Lucien Levenne de Stendhal. Curieusement, Madame de Chastelaire, c'est le personnage féminin de Stendhal qui m'a le plus ému.
Oui.
J'ai été amoureux de Madame de Chastelaire, bien davantage que de la Sanseverina, de Madame de Rênal ou de Mathilde de la Mole. Oui. Et je détesterais la voir. C'est quand même le miracle de l'invisible, la littérature. Et il faut protéger l'imagination du tout à l'image, comme dirait Régis Debray. Donc, je suis très heureux de vous entendre dire cela, parce
non, mais
que
c'est ma voix
ce n'est pas
propre.
Le même registre.
Et
oui,
après,
bien sûr.
S'il y a d'autres intervenants, ils diront autre chose. Je parle en mon nom. Même pour ce qu'on appelle les arts plastiques, je veux dire, même l'écrit m'a amené autant que l'image, si vous voulez. Tout à l'heure, je disais, tiens, une reproduction en noir et blanc d'un Courbet, l'enterrement à Ornans en noir et blanc, on voit rien du tout. Ça m'allait très bien. Parce que c'était une ouverture vers le rêve ou l'imagination.
Un dernier mot, Hector Obalk.
Alors, sur la même question des bandes dessinées que le monde faut voir. Alors, je vais dire que on est peut-être un peu injuste avec la bande dessinée et que je vois pourquoi on se scandaliserait du fait que la princesse de Clèves soit en bande dessinée. Alors que si on vous annonçait qu'un grand cinéaste le mettrait en cinéma, vous diriez, attends, je demande de voir.
Peut-être. En tout cas, ça mériterait que la discussion soit prolongée. Malheureusement, nous n'en avons pas le temps. Alors, il me reste à vous remercier tous deux. Je rappelle, Hector Obalk, le titre de votre livre, Michel-Ange, tout Michel-Ange ou presque en un seul texte et 1000 images. Il est publié aux éditions Azan. Alors, pour vous, Blood, je ne sais pas quoi dire. Je rappellerai les livres que j'ai lus.
Je n'ai pas d'actualité.
Pour en finir
récente.
Avec le cinéma. Chez Dargaud, La Beauté.
Chez Futuropolis.
Voilà. Ouais. Et puis aussi, on n'a pas eu le temps d'en parler, Blotch, œuvre complète aux éditions Fluide Glacial ou encore Vue sur le lac chez Dargaud. Ce ne sont pas tous vos livres, ce sont ceux que j'ai lus, ainsi que Le Petit Christian, qui m'a beaucoup amusé, aux éditions L'Association. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre De la bêtise. Mes invités seront Belinda Cannon et Denis Grozanovic. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lochard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Éric Boisset. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.